Je voudrais, avant la prière, lire dans le psaume 149, verset 4 jusqu'au verset 6. Psaume 149, verset 4. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. En allemand, il couronne les malheureux de victoire. De victoire. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et une épée à deux tranchants et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Levons-nous pour prier. Père céleste, en regardant à toi, notre cœur est calme. Même si en nous, il y aurait des tempêtes, devant toi, tout se calme. Tu prononces une parole et cela arrive. Tu ordonnes et ça existe. Seigneur, nous sommes ici aujourd'hui pour parler avec toi. Et encore plus, nous sommes ici parce que tu veux parler avec nous. Fais-le, ô Dieu, comme un père avec ses enfants, avec ceux avec qui il a des pensées de paix, de qui il veut le bien. Accorde-nous des cœurs obéissants. Un esprit bien disposé, ôte toute la résistance, tout ce qui n'est pas soumis à ta volonté, à ta parole, ôte-le de nous. Que ton esprit aussi maintenant soit sur ta parole. Et en nous, pour produire en nous ce que nous lisons et ce que nous sommes en train d'observer. Seigneur, que tu puisses permettre et faire en sorte que cela soit manifesté, que toi seul es le vrai Dieu et en dehors de toi, personne d'autre. Que nous ne soyons pas confus, mais relève les malheureux, console les découragés, sois avec ceux qui portent des douleurs. Tu connais chaque situation, chaque épreuve, chaque problème. Ça n'a pas d'importance de quelle sorte. Utilise cette réunion pour dire à chacun ce dont il a besoin. Relève-nous tous ensemble et fortifie-nous dans la foi en toi. Affermis-nous dans ta parole. Bénis aussi tous ceux qui sont en vacances, tous ceux qui sont en voyage au Seigneur. Sois avec eux. Nous pensons aussi à ceux qui ont dévié du chemin et te demandons que tu puisses intervenir avec ta droite puissante et accorde aux malheureux la victoire, comme nous l'avons lu, que cette victoire soit manifestée dans l'attente des justes, pour que des cris de joie soient dans nos bouches pendant que, entre nos mains, pendant que dans notre main, l'épée à deux tranchants se trouve. Accomplis toutes ces choses que nous venons de lire. Sauve ceux qui sont perdus. Guéris ceux qui sont malades. Délivre tous ceux qui sont surmontés, qui ont été surmontés par l'adversaire, par l'ennemi. Nous plaçons cette réunion consciemment sous ton sang saint et précieux et te demandons la conduite de ton esprit et te demandons que ta parole puisse produire l'effet pour lequel tu l'envoies. Je te remercie, ô Dieu, de ce que sans être dérangés, nous pouvons nous réunir, nous rassembler, et que c'est encore le temps de la grâce. Ô Seigneur, bénis-nous et sois avec nous dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous asseyons. Asseyons-nous. Peut-être que nous chantons encore deux ou trois chœurs pour que nous soyons encore mieux préparés à la parole, à la réception de la parole du Seigneur. Crois seulement, tout est possible. Oh, crois seulement. Tout est possible, oh, crois seulement. Jésus est là. Tout est possible, Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible car Jésus est là.
Ça, nous ne voulons pas seulement l'avoir chanté. Nous voulons de tout notre cœur et de toute notre âme, le croire. Très souvent, tout parle contre cela. Mais profondément dans notre cœur, nous croyons ce que Dieu a dit. Nous ne regardons pas aux circonstances. Si Job avait regardé aux circonstances, ça aurait été lui qui aurait dit à sa femme, écoute, cela n'a plus de sens de servir Dieu. Non, il n'a pas regardé aux circonstances. Il regardait au Seigneur. Et parce qu'il faisait cela, le jour et l'heure vint dans lequel Dieu s'est révélé à lui, ou bien alors se révélait. Toutes ces choses ont été écrites pour que, par toutes nos épreuves, nous puissions savoir ce que nous avons aussi à faire. Et les Saintes Écritures disent même, regardez à la fin que le Seigneur, lui, accorda. Il ne s'agit pas des temps entre avant que la fin arrive ou bien le temps dans lequel, ou bien il ne s'agissait pas de ce que l'ennemi a fait et a fait comme dégâts, mais il s'agissait de la fin, C'est elle qui sera couronnée. Celui qui persévère jusqu'à la fin, et à cela, nous voulons appartenir. C'est à cela que nous voulons appartenir. Je voudrais Oui, je veux que l'amitié et la fraternité prévalent. Et je voudrais demander au frère Schmitt, est-ce qu'il voudrait au moins nous remettre une salutation? Il est seulement une fois par an, ici à Zurich. Et nous sommes des amis de longue date et des frères dans le Seigneur à Krefeld. Voudrais-tu justement saluer tous? Et ensuite, nous allons entrer dans la parole, dans l'observation de la parole. J'ai seulement encore la question. Est-ce que quelques-uns sont là qui voudraient se laisser baptiser? Ça, nous aimerions bien le savoir. Il y a une sœur qui voudrait le faire le plus rapidement possible. S'il y a encore des frères et des sœurs qui voudraient se laisser baptiser, nous aimerions le savoir déjà aujourd'hui pour que nous puissions donc planifier cela pour le dernier dimanche d'août. Planifier un service de baptême. S'il te plaît, frère Schmitt. Le frère Frank, je ne peux pas prendre à une réunion sans que frère Frank m'appelle. Alors, je vais devoir rester à la maison. Je ne pourrai plus aller où que ce soit. Mais ça me réjouit quand même d'être ici, d'être parmi vous. Et devant le Seigneur avec vous, écoutez sa parole ensemble, apportez l'honneur et la gloire à notre Seigneur. Je voudrais remettre les salutations qui m'ont été transmises à Salzbourg. Les frères et sœurs, vous remettez tous leurs salutations de Strasbourg, de l'Autriche, donc à tous ceux, car ils savaient que nous serons ici. Et comme déjà dit, je suis heureux. Toujours de nouveau d'être ici et me réjouis dans le Seigneur de ce que nous ne sommes pas seulement seuls et vous n'êtes pas seulement seuls, mais il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup qui veulent servir le Seigneur et qui servent aussi le Seigneur. Il y en a beaucoup, plusieurs, qui glorifient son nom et l'adorent. Ainsi que le Dieu de paix nous accorde sa grâce à tous pour que nous puissions le glorifier, le servir de notre cœur, l'honorer. Nous savons le temps dans lequel nous sommes est sérieux, est court, ainsi que Dieu puisse accorder la sagesse et la grâce pour que nous puissions, de tout notre cœur, de toute notre âme, le servir et à lui seul apporter la gloire, qu'il puisse nous aider. Je voudrais peut-être lire quelques écritures. Que Dieu puisse nous aider et par cela nous accorder ce dont nous avons besoin. L'apôtre Paul l'a écrit à Tite, ici dans le deuxième chapitre, il nous écrit et il dit au verset 11, Tite 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et ensuite, au chapitre 3, il dit, cette parole est certaine. Donc le verset 8, Tite 3, verset 8, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, en allemand, et ce qui est plein de bénédictions pour les hommes. Que le Seigneur nous bénisse, nous, et qu'il soit glorifié, qu'il nous aide en toutes choses. Amen. Auprès de Dieu, avec Dieu, toutes choses sont dans la simplicité. Et ça ne peut pas être plus simple, assez simple. Ça ne peut pas être assez simple. Notre frère Schmitt, je ne l'aime pas seulement à cause de sa simplicité, seulement parce qu'il vient du fin fond de l'Est, né à 4000 km derrière Moscou, et il a passé la plupart de sa vie là-bas, mais je l'aime parce qu'il aime le Seigneur, il aime sa parole. Et la même chose, nous pouvons aussi le dire les uns les autres. nous nous aimons parce que Dieu nous a aimés. Nous nous supportons les uns les autres, nous prions les uns pour les autres et nous nous tenons les uns pour les autres. C'est en cela que le vrai amour de Dieu se manifeste. On m'a demandé tout à l'heure comment est-ce que va le frère Forêt, et j'écoutais que terrestrement les choses ne vont pas bien pour lui, et cela nous attriste beaucoup. D'un autre côté, nous savons que Dieu n'a jamais fait une erreur. Et je vois là-bas notre bien-aimé frère Lange Ecker. Ça me rappelle alors que il avait été livré à l'hôpital en tant qu'un candidat à la mort, et Dieu l'a touché. Dieu l'a guéri. Et parfois, c'est ainsi que notre temps est compté. Et si c'est le cas, alors nous devons aussi pouvoir avoir un oui. Donc accepter cela de tout notre cœur et ne pas se plaindre devant Dieu. Dieu n'a jamais fait d'erreur. Ce qui est important, c'est que nous soyons prêts à partir et à rencontrer le Seigneur. Et que nous puissions dire que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est quelque chose de complètement différent. Et avec esprit, hier, à Salzbourg, je ne l'ai pas mentionné. Je n'ai pas fait mention de ça parce que ça concerne justement la région. Et je le dis seulement pour montrer comme c'est important, à tel point c'est important de ne pas, dans ce temps, se laisser égarer et induire en erreur par qui que ce soit. Par qui que ce soit. Mais de rester attaché à Dieu et à sa parole. C'était vraiment une précieuse sœur. Et à chaque fois, et la plupart, quand j'étais à Salzbourg, en Autriche, donc là-bas j'ai passé la nuit, c'était une maison de vacances qui était libre. Et cette vieille sœur, très âgée, s'est occupée de moi et m'a apporté du lait de la ferme. Elle a fait tout ce qui était possible, tout ce qu'un homme peut faire comme hospitalité. Et ensuite, cela a eu lieu qu'elle a été troublée. Et alors que l'avant-dernière fois, j'étais à Salzbourg, elle m'a apporté encore le lait, elle l'a mis dans le frigidaire et encore plusieurs autres choses qui appartiennent donc à un repas, à un petit déjeuner. Elle a fait quelques remarques qui ont attiré mon attention et je savais que cela ne vient pas d'elle. Parce que j'ai pu seulement lui dire, « Sœur, ne prends pas part à de telles choses. » Et je ne le dis pas seulement comme ça à la surface, hein, ça me fait vraiment mal au cœur. C'est vraiment une douleur. Je suis donc avec le frère, avec son neveu Hans Bauer, je suis allé à Wilhelmsbad. Nous avons là-bas ensemble pris un repas. Et quand je suis revenu, le frigidaire était complètement vide. Bon, pour moi, il n'y avait plus rien qui était resté. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Bon, je n'avais pas faim. J'avais déjà mangé. Mais dans mon cœur, il y a eu une très grande douleur. Et c'était cette sœur, elle avait perdu l'orientation. Elle avait perdu l'orientation spirituelle. Et ça va faire 3 semaines d'ici que elle s'est suicidée. Elle a sauté dans le fleuve, le Salar. Et auparavant, avant cela, dans une détresse intérieure de tout son cœur, elle a crié. Elle criait et elle disait, « J'ai péché devant Dieu et j'ai péché devant Frère Frank. Et pour moi, il n'y a plus de grâce et il n'y a plus de pardon. » Elle était dans un tel désespoir et aucun homme était là pour l'aider dans l'heure de l'épreuve, pour la consoler, pour l'aider à sortir de tout cela. Vous savez, il y a différents enseignements. L'un de ces enseignements là dit qu'il est, il est prétendu que le Seigneur Jésus reviendra cette année, en juillet. Ce sera la moitié du temps. Et cette pauvre sœur a cru tout ça. Et elle disait subitement encore, elle ajoutait subitement à cela, je ne peux pas supporter de voir que, comment est-ce que d'autres seront enlevés et que moi, je resterai. Et elle disait, je sais, je ne suis pas prête, donc je vais rester et ça, je ne peux pas le supporter. Donc, plusieurs choses se sont ajoutées et elle est dans l'éternité. Si je connais assez bien la parole de Dieu, alors ces frères-là, devant le Dieu Tout-Puissant, au jour du jugement, seront responsables de cela parce qu'ils ont induit en erreur une âme, ils ont égaré une âme et l'ont jetée dans le désespoir. On ne peut pas être assez, on ne peut pas faire assez attention. Parfois, les gens pensent, bon, je vais écouter, je vais aller écouter ce qui est prêché là-bas. C'est exactement comme ça que Ève aussi avait pensé. Bon, je vais écouter ce qui est prêché. Je ne fais qu'écouter. Mais ce n'est pas seulement écouter. Chaque parole, chaque entretien est comme une semence et elle produit de son fruit. Elle produit de son fruit. Et subitement, on perd l'orientation spirituelle et le résultat est justement le trouble, la confusion. Que Dieu puisse garder tout ce qui lui appartient. Vraiment garder. Que il puisse, aussi dans l'heure de l'épreuve, ne pas se laisser égarer et enduire en erreur, mais rester dans la parole de Dieu. Que pensez-vous? Comment est-ce que c'était dans les jours du Seigneur? Qu'est-ce qu'on lui disait qu'il a le Belzébuth, etc., etc., il a un mauvais esprit. Mais ceux, les hommes qui avaient expérimenté la grâce de Dieu savaient en qui ils croyaient. Aussi, frère Branham a dû surmonter beaucoup de choses, supporter beaucoup de choses. Et aussi ceux qui ont cru à son ministère et se laissaient bénir par Dieu. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Et qu'est-ce qu'on lui a dit à Frère Branham? Il est un devin, un disant de bonne aventure, un voyant, etc., etc. Pour tous ceux qui prenaient part à la réunion, il ne restait plus rien d'autre que de porter l'opprobre à cause du ministère. Et les deux vont ensemble. Nous aurons préféré seulement qu'une seule chose. Mais il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que nous voulons aller au-delà du camp et porter l'opprobre de Christ. Aujourd'hui, cette opprobre consiste à ce que nous avons cette responsabilité devant Dieu à annoncer toute la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite et révélée. Que pensez-vous? Si nous ne croyons pas biblique sur la divinité, sur les baptêmes d'eau. Fondamentalement, si nous n'avions pas prêché bibliquement sur tous ces sujets, cette salle serait trop petite pour recevoir tous ceux qui viendront. Mais il ne s'agit pas de la grande masse et de la grande foule, d'avoir une grande masse, une grande foule. Il s'agit du peuple de Dieu. Et Paul disait dans Galates chapitre 1, si je veux encore plaire aux hommes, je ne suis même pas un serviteur de Christ. On ne peut pas au même moment servir Dieu et servir ou bien alors avoir la faveur de Dieu et avoir la faveur des hommes. Non, c'est pas possible. J'ai seulement mentionné ces choses pour la seule raison pour nous dire à tous de faire attention, de faire très attention, de toujours demeurer dans la parole de Dieu, d'examiner si les choses qu'on entend sont exactes pour que nous puissions surmonter l'épreuve. Nous allons lire 2-3 écritures. Je n'ai pas envie de tenir une prédication. Dans Romains, le chapitre 8, je voudrais lire le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Romains 8, verset 11, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. En allemand, c'est l'esprit qui nous fait devenir fils de Dieu, par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Les deux vont ensemble avec cela. Avant que la gloire vienne et que nous puissions en avoir part, en participer, devenir participants, plusieurs souffrances vont devoir venir. Nous allons devoir passer par plusieurs souffrances. Le chemin du Seigneur est passé par Gethsémané, par Golgotha, par l'opprobre, par le mépris. Mais la fin, c'est sa fin que nous devons regarder. Élevé au-dessus de tout, il est assis là, à la droite de sa majesté, de la majesté de Dieu, et attend jusqu'à que tous ses ennemis soient placés sous son marchepied. La conduite du Saint-Esprit veut dire d'être conduit dans la parole de Dieu, de recevoir la clarté spirituelle par la révélation divine pour pouvoir comprendre et prendre part à ce que Dieu fait. Comme nous l'avons lu, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. N'avons-nous pas souvent parlé de ça? Simon fut conduit par l'Esprit. Il vint dans le temple. Personne ne savait ce qui se passait là dans le temple, ce qui était en train d'arriver là dans le temple. Seulement lui le savait. Il prit l'enfant dans ses bras, notre Seigneur en tant qu'enfant, comme enfant. Et a prononcé ces paroles, Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, mes bien-aimés. C'est par l'Esprit qu'il avait reçu la révélation qu'avant sa mort, il verra le Messie. Quand l'heure fut arrivée, l'Esprit de Dieu de nouveau vint sur lui et l'a apporté là, l'a conduit là où la parole était devenue une réalité. La conduite de l'Esprit est toujours en relation avec l'accomplissement de la parole de Dieu, avec les prophéties bibliques. Et c'est ce que nous avons, je l'espère, dans ces derniers jours, compris. Et alors, ça aurait été plus facile de mettre Frère Branham de côté et de ne pas le témoigner comme les Saintes Écritures le disent clairement, que le Seigneur, comme Élie autrefois, avant le grand jour et terrible et redoutable de l'Éternel, a envoyé un serviteur. Mais est-ce que nous pouvons faire cela? Non. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons faire comme les Saintes Écritures le font, rendre témoignage de ce témoignage. Nous sommes à la fin du temps de la grâce et le jour du Seigneur apparaîtra bientôt. Dieu a accompli sa parole. Il a envoyé son serviteur et prophète pour de nouveau nous ramener à la parole originale. Et nous n'avons pas honte de ça. À la fin, ce sera le contraire. Aujourd'hui, nous sommes ceux qui sont, n'est-ce pas, tristes et les autres ont pitié de nous et ils disent, regarde comment ils sont insensés. Mais en ce jour, ce sont les insensés qui seront les sages. Et les sages se tiendront là comme, n'est-ce pas, des folles. Non, nous voulons appartenir à ceux qui, ici, sur cette terre, n'ont aucune valeur et qui sont considérés comme quelque chose de quelconque. L'essentiel, c'est pour nous d'atteindre le but et d'être auprès du Seigneur. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pas seulement ceux qui sont oints de l'Esprit, pas seulement ceux qui ont reçu l'Esprit, mais ceux qui, pas à pas, de clarté en clarté et de vérité en vérité, de connaissance en connaissance divine, par l'Esprit de la vérité, dans toute la vérité, se laissent conduire et sont conduits. Il y a deux esprits qui sont à l'œuvre, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, qui est un esprit de mensonge. Et Paul, en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un apôtre, comme un apôtre, avec une vue lointaine de prophète, dans 2 Thessaloniciens, il l'a dit très clairement. Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Mais bien aimés, ne pensons pas seulement à tous les autres, aux grandes églises et tout ça. Non. Cela jusqu'à la fin, dans le dernier mouvement divin de Dieu, restera valable. Nous ne pouvons pas chercher ce que, trier ce qui nous plaît dans ce que Dieu a révélé et dans ce que Dieu a. Nous ne pouvons pas trier dans ce que Dieu a révélé et faire connaître ce qui nous plaît. Nous devons recevoir tout et mettre en pratique tel que cela a été révélé et fait connaître par Dieu. Sinon, il nous manquera des choses. Dans Colossiens 1, verset 9, nous voulons lire. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence produite par l'Esprit. Que produit l'Esprit, donc spirituel. Ici, il ne s'agit pas de choses à la surface. Il ne s'agit pas seulement d'avoir cru comme ça à la légère. Mais il s'agit que la sagesse et l'intelligence de Dieu lui-même, nous en tant qu'hommes mortels, mais en tant que des gens qui ont reçu la grâce, en tant que des enfants de Dieu, que cette sagesse et cette intelligence de Dieu nous remplissent. Et que ainsi, nous soyons introduits dans toute la parfaite volonté de Dieu. Paul, Pierre, tous les apôtres, avec une seule chose dans leur but, dans leur cœur, c'est de servir Dieu pour que l'Église soit servie, pour que l'Église puisse être servie. Et c'est peut-être raison qu'il est dit ici en insistant, nous prions et demandons en tout temps que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence produite par l'Esprit rempli. Partout, il est parlé de volonté de Dieu, de la volonté de Dieu. Chaque évangéliste, chaque mouvement, chaque prédicateur, chaque église, tous sont convaincus d'eux, d'être dans la volonté de Dieu. La chose n'est pas si simple que ça. Et comme souvent, j'ai essayé de le dire, j'ai veillé à le dire, il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome. Mais il n'y a qu'un seul qui sort de Rome, qui fait sortir de Rome. Et il n'y a qu'un seul chemin qui peut nous conduire à Dieu. Il n'y a qu'un seul qui pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que celui qui me suit ne demeurera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. À la suite du Seigneur, en suivant le Seigneur, même dans la plus profonde obscurité ou bien dans les plus profondes ténèbres, la lumière brillante de l'Évangile de Jésus-Christ qui resplendit sur son visage est avec nous. Ici, nous devons être remplis de la connaissance de Dieu. Pour quelle raison est-ce que Dieu a envoyé tous les prophètes? C'est pour révéler sa volonté. Pour quelle raison est-ce que le ministère de Frère Branham dans cette génération est venu? C'est pour la seule et unique raison pour nous révéler clairement et ouvertement de manière nouvelle à l'Église la volonté de Dieu, de montrer à l'Église de révéler la volonté de Dieu à l'Église et de placer la parole de Dieu sur le chandelier. Sommes-nous reconnaissants de cela? Avons-nous reconnu ce que Dieu a eu comme objectif avec ce ministère? Non, ce n'est pas pour apporter une nouvelle direction. Il y a assez de directions, non. C'est pour, de manière divine et biblique, nous positionner. Ça n'a pas d'importance de quelle direction nous venons, mais que nous puissions aller dans une seule direction, et cela ensemble. Et ça, c'est la direction divine qui nous est montrée dans sa parole et donnée dans sa parole. Ça continue encore ici, au verset 10. « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Et croissant dans la connaissance de Dieu. En allemand, comme profondes sont ces pensées, comme précieuses sont ces paroles qui sont exprimées ici. Nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous avons été appelés à une sainte vocation céleste, à suivre le Seigneur. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous lui appartenons pour à lui appartenir, à avoir reçu la grâce à lui appartenir pour toute éternité. La semence incorruptible de la parole de Dieu, nous avons reçu dans notre cœur comme Esaïe. N'est-ce pas dans un verset le dit, qui tremble en pensant à sa parole, en écoutant sa parole. Combien de fois les Écritures sont lues comme les Saintes Écritures sont lues comme si on lirait un autre livre ordinaire, sans que les lecteurs soient conscients que dans ce livre-là, c'est Dieu qui parle avec nous. C'est les pensées de Dieu, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la même inspiration telle qu'elle était sur les prophètes et les apôtres puisse venir sur nous tous? Que la même inspiration puisse venir sur nous tous quand nous lisons les Saintes Écritures. Car c'est l'Esprit qui vivifie les Écritures, qui vivifie la lettre, qui vivifie la parole. Et c'est ainsi que nous devons être remplis de la sagesse et de l'intelligence spirituelle, donc de l'Esprit de Dieu, jusqu'à que nous soyons conduits dans la parfaite volonté de Dieu. Et ça, c'est ce que Paul écrit dans l'Épître de Romains, au chapitre 12, « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, la parfaite volonté de Dieu. Donc, Romains 12, verset 2, ça, c'est l'heure, c'est le jour que le Seigneur a fait. Un peuple, pour appeler un peuple à sortir, qui est prêt, après la révélation de sa parole parfaite, à faire sa volonté parfaite. Des gens qui se sont mis à sa disposition alors qu'il parlait, qu'ils puissent aussi se mettre à sa disposition quand il commence à agir. Quand il commencera à agir. Et ça sera pas, il n'y aura plus de Babel, donc de confusion, vous savez. Vous avez peut-être suivi ce grand jour des églises à Munich il y a quelques semaines. Même l'un de ce grand évêque catholique là, il disait que c'était comme à la grande tour de Babel, c'était qu'une confusion de langage. Mais Dieu n'a pas besoin de tour. Dieu ne bâtit pas une tour, Dieu bâtit une église. Et nous n'essayons pas de bâtir quelque chose et ensuite pour être au-dessus des autres et monter toujours plus haut. Non, nous laissons bâtir par l'Esprit pour devenir un édifice de Dieu et nous voulons nous tenir à sa disposition. Mais cela peut seulement avoir lieu dans le cadre de la parole de Dieu. Tous ceux qui, jusqu'à la fin, persévéreront et prêteront leur oreille seulement au Seigneur et croiront seulement ce qu'il l'a révélé de sa parole à son peuple. Ce sont ceux-là qui expérimenteront l'heure de sa visitation divine et verront que sa volonté parfaite, telle qu'elle a été révélée, aussi dans la réalité a lieu. Car je vous le dis ici, pas seulement, je vous dis pas seulement ici comme ça, hein. Arrive donc à lieu, cela est en accord total avec ce que Dieu a toujours dit et toujours fait. Je demande au monde entier, je défie le monde entier de me montrer, de mettre les doigts sur une chose où Dieu aurait promis quelque chose qu'il n'a pas tenu et qui n'a pas fait. Avec Dieu, les paroles et les actes sont toujours en accord. Paroles et actes. On peut s'abandonner à cela. Est-ce que ça devrait changer aujourd'hui? Jamais et jamais. Mais nous avons seulement besoin de patience. Est-ce que Dieu devrait changer aujourd'hui? Non. Nous avons besoin de patience pour que l'heure de Dieu arrive et que nous l'ayons attendu. Car si toutes les choses, si toutes les choses arriveraient comme nous les attendions, alors où serait donc l'épreuve de notre foi? L'heure est là pour que notre patience soit mise à l'épreuve. Dieu sait ce qu'il fait. Il donne les promesses, donc il laisse plusieurs années passer, comme le frère Branham a dit concernant, n'est-ce pas, la prophétie qui avait été apportée par Ésaïe. Frère Branham l'a souvent mentionné. 810 ans sont passés à... C'est seulement après 810 ans que la Vierge a enfanté et que le Messie naquit. Mais Dieu, lui, veillait sur sa parole pour l'accomplir. Il n'y a pas une seule parole de Dieu qui serait annulée ou bien qui serait restée sans s'accomplir. Il a dit lui-même qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et cela arrivera. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il a dit que l'agneau et le lion paîtront ensemble. Ils forgeront des épées avec les socs de charrue. Tout ce que Dieu a dit, tout, nous pouvons nous abandonner entièrement à cela, sera aura lieu tel qu'il a dit. Ça, c'est Joël 3:10. Et s'il dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et que ensuite, nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés et que ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs et le rencontrerons dans les airs. Alors ça, pour Dieu, c'est déjà une chose décidée. Personne ne peut changer cela, empêcher cela. Tout l'enfer peut se tenir devant le Dieu Tout-Puissant. Il y a peut-être deux puissances, mais qu'une seule toute-puissance, qu'un seul tout-puissant, ça, il n'y en a pas deux. Ça, vous pouvez me le croire. Il n'y a qu'un seul et unique, le tout-puissant, c'est le créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est notre Dieu qui, personnellement, en Christ Jésus, notre Seigneur, s'est révélé. Il se tient sur sa parole et il se tient sur avec son peuple qui, dans la foi, a accepté et reçu sa parole. À cela, je voudrais, et c'est ainsi que je veux aussi l'espérer, nous tous qui appartenons au Seigneur dans cette génération, nous ne voulons rien faire de nous-mêmes, de propre, mais à tout prix, nous voulons prendre part à ce que Dieu fait, à ce que Dieu fait. Je voudrais vivre l'achèvement de l'œuvre de Dieu, la perfection, le couronnement, la fin, la restauration totale et la manifestation des fils et des filles de Dieu. Je voudrais vivre cela, mais pas seul, mais nous tous, ensemble. Nous qui, malgré tout, toutes les épreuves et les détresses, si je dois le dire, malgré toutes les calomnies incroyables qui, depuis que les hommes existent, n'ont jamais existé de cette manière. Mais l'adversaire sait exactement qui est-ce qu'il a à prendre comme cible. Et si cela lui réussit de détruire la crédibilité d'un ministère divin, d'un appel divin et de remettre en question cet appel, ce mandat, alors, après avoir réussi cela, il pourra faire tout ce qu'il veut avec ceux qui ont cru à ses mensonges et après il fera en sorte qu'ils se suicideront. Que Dieu puisse garder jusqu'à la fin. Croyez-moi, alors que de son temps, Frère Branham et beaucoup... Alors que j'écoutais Frère Branham et beaucoup d'autres évangélistes, ce n'était pas ma décision de discerner qui est quoi, etc. Qui est qui. Mais il y a une chose qui était dans mon cœur. J'ai fait comme ceux-là de béret, j'ai sondé les Écritures pour voir si cela était exact. Et certaines choses m'ont presque fait trébucher. Mais j'ai gardé ma bouche, j'ai fermé ma bouche. J'ai continué à sonder les Écritures. Et voilà que j'ai été conduit de clarté en clarté. Et d'une connaissance de l'Esprit à une autre. Et pour cela, je suis reconnaissant à Dieu. Subitement, j'ai eu la grâce de reconnaître sans grand effort, que beaucoup utilisent le nom du Seigneur pour leurs propres affaires et pour, dans le royaume de Dieu, bâtir leur propre royaume parce qu'ils n'ont pas reçu un appel, parce qu'ils n'avaient pas un appel original, divin. Et là, nous ne portons pas un jugement sur qui que ce soit. Nous faisons seulement que constater avec un cœur triste que beaucoup d'hommes passent à côté de ce que Dieu fait aujourd'hui. Et vous savez, où est-ce qu'ils aboutissent? Ça, vous le savez exactement. Chaque église qui a adopté des enseignements du levain romain et ne se laisse pas complètement purifier sera un jour imprégné de ce levain. Et tout ramène, et tout cela ramène à Rome, de nouveau. Que vous le croyez ou pas, je me suis reposé quelques jours, et ensuite, il y a un monsieur Schmidt qui est venu à moi, et il se plaignait de certaines choses qui sont dans son église et dont il est ancien, etc. Et il disait, vous savez, monsieur Franck, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu comprendre, mais que maintenant, dans nos églises protestantes, les pasteurs portent une robe blanche, comme cela est l'habitude dans l'église catholique à l'autel. Ça, je ne peux pas le comprendre. Dans le service à l'autel. Et il disait, il porte cette robe là où c'est nécessaire. Le noir, la robe noire pour les enterrements et la robe blanche pour le service dans l'église, seulement pour s'ajuster à... Si nous avons compris le message divin pour cette heure, pour ce jour, alors nous remarquons, n'est-ce pas, où est-ce que toutes ces choses l'amènent? Moi, je reste attaché à la parole qui est sortie de Jérusalem et pas à celle qui, pas avec ce qui est sorti de Rome, croyez-moi. Ça, même si à Constance, je dois être brûlé sur le bois, ce seront mes dernières paroles. Car c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la vérité. Et la vérité, c'est pas toi et c'est pas moi qui l'a. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et elle nous a été confiée en tant qu'un trésor. Mais tout le reste va réellement être confisqué. Les gens vont suivre comme saisis par un serpent et ils ne peuvent plus s'en défaire. Mais malgré tout, Dieu a envoyé un dernier message, un dernier appel pour que tous reçoivent la possibilité d'être appelés à sortir. Celui qui ne sort pas, il sera englouti par ce qu'il ne connaît pas la différence. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui sont là pour la première fois parmi nous, qui sont nouvelles, et ça pourrait se faire entendre comme si on serait orgueilleux et comme si on serait sûr de ce qu'on dit. S'il vous plaît, pas sûr de nous-mêmes. Faites la différence de ces choses. Moi, je suis en tant qu'un frère Franck. Je ne suis pas certain de moi-même, non. Mais la parole de Dieu qui est en moi, frère Franck, est plus qu'une assurance. Je peux m'abandonner en Dieu et à sa parole. Et nous pouvons le faire tous. Il ne s'agit pas d'un homme, mais de Dieu qui voulait ramener son peuple. Et aussi certain que nous vivons dans la dernière génération et qu'il a promis de ramener son peuple. le combat sera encore plus dur, les calomnies seront encore plus graves. Mais les choses deviendront aussi encore plus glorieuses. Ne vous inquiétez pas, alors que Jacob s'était enfui d'Ésaü, c'était pas bien, c'était pas facile pour lui. Mais quand il est revenu, n'est-ce pas, il a envoyé devant lui, n'est-ce pas, sa famille et ses troupeaux, etc. Il est resté seul comme le dernier devant le fleuve et il a combattu avec Dieu. Et voilà que le matin a apparu pour lui. Mais bien aimé, en tant que des personnes, nous ne sommes pas comme ça, pleins de courage comme nous. Nous en avons l'air. Nous n'avons pas tant de force comme parfois cela semble. Mais nous mettons notre confiance et la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas seulement la parole, mais nous avons aussi la puissance qui est dans la parole de Dieu et qui se manifestera en tous ceux qui ont de tout leur cœur cru et reçu sa parole. Cette parole, je voudrais encore la relever rapidement. Afin que, dans la connaissance de sa volonté, pas dans ta connaissance et ma connaissance, pas comme moi et toi, comme nous voyons les choses, mais comme Dieu les voit, dans la connaissance de Dieu et la connaissance de Dieu par Jésus, nous est accordé par Jésus-Christ, par la parole de Dieu, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Marcher d'une manière qui soit entièrement agréable. Ça aussi, ça va ensemble. Les hommes de Dieu marchaient avec le Seigneur. Et le modèle, c'était Enoch. Il marchait avec Dieu. Et puis, subitement, il ne fut plus trouvé sur terre. Nous aussi, nous voulons partout et chacun où il est, vivre une vie avec Dieu. Marcher avec lui jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Être fondé fermement dans sa parole, affermé dans sa parole, lavé dans le sang de l'agneau, purifié, sanctifié, préparé pour le retour du Seigneur. De telles personnes, Dieu veut faire de telles personnes de nous, oui. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Nous avons été déterminés, comme notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le disait, pour que vous puissiez aller et porter du fruit et que votre fruit demeure. Beaucoup de fruits. En toi et en moi, le Seigneur veut voir des fruits divins. C'est-à-dire les fruits, le fruit du Saint-Esprit, qui ne sont pas produits par toi et par moi, qui ne peuvent pas être produits par toi et par moi, mais qui sortent de la vie divine, la vie de Dieu que nous avons reçue et que nous portons en nous par la grâce de Dieu. C'est de cette vie que le fruit de l'Esprit sort. Le Seigneur est le cep et nous sommes les sarments. Ensuite, il dit ici, verset 11, « Revêtu à toute égard, en allemand, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients, rendant grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. nous sommes délivrés, sauvés du domaine des ténèbres. La lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge ne peuvent pas cohabiter ou bien alors au même moment, au même temps, exister. Si nous avons été sauvés, si vraiment nous avons expérimenté Dieu et que nous suivons Christ Jésus, alors il faut que cette parole s'accomplisse que nous avions déjà cité au commencement de notre Seigneur. Il disait, « Celui qui me suit ne demeurera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Tous ceux qui étaient assis dans les ténèbres, dans l'obscurité, ont vu une grande lumière. Que la lumière soit au temps du soir. La lumière sera au temps du soir. Le jour de la grâce va vers sa fin. La lumière, Dieu l'a accordée. La révélation de sa parole et de sa volonté, il l'a accordée à son peuple. Maintenant, qu'il puisse nous accorder d'avoir des cœurs, obéissants et des cœurs pleins de foi pour que sa parole révélée en nous et en tous ceux partout où ils sont, en tous ceux qui dans ce temps croient le Seigneur, que sa parole puisse s'accomplir en tous ceux qui croient et qui obéissent. Il nous a rendu capables d'avoir part, au verset 12, Colossiens 1, à l'héritage des saints dans la lumière. Tout cela, tout ce que Dieu révèle, vient à la surface. C'est frappé par la lumière. Et le Seigneur a dit, ce que je vous souffle dans l'oreille, annoncez-le sur les toits. Ce que Dieu fait n'a pas lieu dans un coin caché, dans un angle quelque part, mais est toujours accessible, a toujours été accessible à ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Et c'est comme ça encore que ce sera jusqu'à la fin. Tous ceux qui sont déterminés à vivre l'achèvement, la perfection, croiront jusqu'à la fin, ils garderont le pas, ils seront obéissants jusqu'à qu'avec Dieu et sa parole, nous soyons entièrement apportés en accord et en accord. Dieu en Christ et Christ dans l'Église. C'est ainsi que la perfection et l'achèvement et l'accomplissement du mystère de Dieu en Christ, de Dieu en Christ et l'Église. Et nous, dans ce dernier temps, nous avons la grâce d'avoir part à cela. Complètement à la fin aussi de nos bouches, là, des cris de louange, des cris de joie seront entendus parce que l'épée à deux tranchants, l'épée de l'esprit a été retenue, a été saisie fortement dans notre main de foi. Et parce que nous avons cru fermement de tout notre cœur ce que Dieu disait et promettait et a promis. Oh, béni toi qui as cru, qu'il te soit fait comme il t'a été dit. C'est ainsi que aussi cela aura lieu avec nous par la grâce de notre Dieu. Qu'il puisse nous bénir tous et être avec nous. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. J'entends encore tout notre cœur, comme ça doucement, de tout notre cœur. Tel que je suis, sans rien de moi. Sinon, en ton sang, versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Nous voulons courber les têtes, fermer les yeux, ouvrir les cœurs, et ainsi, aussi vrai que Dieu nous a parlé et qu'il vous appelle. Ne vous fermez pas, car c'est ainsi que c'est écrit. Aujourd'hui, pas demain, pas une autre fois, mais aujourd'hui, maintenant, maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez-vous devant Dieu. Tous ceux qui endurcissaient leur cœur n'atteindront pas le but. Bien-aimé cœur, bien-aimé âme, bien-aimé frère et sœur, tu n'as pas besoin de comprendre tout en une seule fois. Accepte la première chose dans la foi, c'est-à-dire Jésus-Christ, ton Sauveur, qui sur la croix à Golgotha a répandu son sang pour toi. Accepte-le comme ton Sauveur personnel et dis dans ton cœur et prononce cela de ta bouche, de ta propre bouche. Sauveur, je te crois. Je crois en toi. Tu es mon Sauveur. Tu m'as sauvé, racheté. Tu as payé le prix pour moi à Golgotha. Tu as versé ton saint sang divin pour moi. Pardonne-moi. Fais-moi grâce. Agrée-moi. Accueille-moi. Et vous verrez. Le Seigneur va s'approcher de vous. Saisissez cette occasion maintenant. Alors que toutes les têtes sont courbées et que les yeux sont fermés, je voudrais demander, est-ce que quelqu'un aurait le courage de lever les mains pour que nous puissions prier pour vous, partout où vous êtes? Merci, 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 sœur, que Dieu voit les mains. Prions. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce, ô Seigneur, avec combien de reconnaissance nos cœurs sont remplis. D'un côté, c'est un temps terrible, un désordre, une confusion totale, mais d'un autre côté, c'est un temps glorieux. Le temps de l'appel à sortir, le temps de la correction. Ô Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont levé leurs mains, pour tous ceux qui veulent t'en consacrer leur vie. Bien-aimé Seigneur, agrée-les, accueille-les, pardonne toutes les fautes, expie-les, ô Seigneur. Tu pardonnes les iniquités et tu te souviens plus du péché. Loué soit le nom. Loué soit ton nom pour l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha. Tu n'es pas mort en vain. Tu sèmes, tu verras une semence et nous serons auprès de toi, une descendance en tant que salaire de tes douleurs. Seigneur bien-aimé, accueille tous ceux qui ont levé leurs mains. Accueille-nous tous, nous tous qui levons nos cœurs vers toi. Bénis dans toute béni dans toute la béni dans toute la Suisse, dans toute l'Autriche, oui, toute l'Europe. Nous pouvons même presque plus le supporter. Rempli de ce désir que tu te manifestes et que tu visites ton peuple de manière visible, de manière qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse l'expérimenter, le sentir. Oh Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et tu nous as ressuscité avec toi pour marcher en nouveauté de vie. Ainsi, Seigneur, bénis-nous tous de la plénitude de ta grâce. Nous te croirons et t'obéirons et te suivrons dans l'obéissance jusqu'à ce que nous arrivions aux portes en perles. Tu as fait de grandes choses merveilleuses en nous, des choses grandes et merveilleuses. Nous pensons de nouveau à tous ceux, qui sont devenus le sacrifice d'autres esprits. Combien ces gars ont perdu l'orientation parce qu'ils ont abandonné ta parole. Ô Seigneur, que tu puisses nous montrer l'importance de ta parole et nous montrer le cadre de ta parole à ne pas dépasser, pour que nous puissions la garder et ne pas la transgresser. Ô Seigneur, que tu puisses faire de nous des hommes qui marchent dans tes voies et qui font ta volonté. Rends-nous capables, tel que nous l'avons lu dans Colossiens 1, verset 12, et remplis-nous de toute sagesse et intelligence spirituelle jusqu'à être rempli de la parfaite connaissance de la volonté de Dieu et être rempli de toute la plénitude de Dieu. Nous te remercions de ce que nous vivons nous avons la grâce de vivre dans ce temps et que ta parole prophétique brille comme une lampe dans un lieu obscur. La Bible est devenue un livre nouveau pour nous, précieux. Seigneur, je loue ton nom, car tu es fidèle et merveilleux. Comment nous ne devrions pas te remercier avec ces lèvres qui ne sont pas dignes de prononcer ton nom, mais tu as fait de grandes choses, des choses grandes et merveilleuses en nous, que, Seigneur, à la fin, avec mes propres yeux, je puisse voir que le dernier message a porté du fruit et que des hommes ont été conduits à toi, que tu peux transformer et que tu enlèveras dans les airs. Je te remercie de ce que le 1er janvier 1981, j'ai vu cela. J'ai vu l'enlèvement. Je loue ton saint nom. Tu auras un troupeau habillé en blanc. Sans tâche, ils seront sans tâche, sans rides. Seigneur, toute douleur, tout combat, toute maladie, toute épreuve, tout problème, que même la mort sera passée. Nous pensons maintenant au frère Fora. Sois proche de lui, Seigneur. Que ta volonté ait lieu en lui et par lui. Fortifie-le dans la foi. Ô Seigneur, et tous ceux, tous les bien-aimés qui sont autour de lui, Seigneur fidèle, accorde en tout temps la sagesse adéquate, la réponse adéquate des Écritures qui nous console aussi dans de telles heures. Nous te remercions de tout notre cœur pour tout, dans le saint nom de Jésus. Amen.